La loi du gourdin et des crocs. Le premier jour de Buck sur la plage de Dia ressembla à un cauchemar. Chaque heure fut remplie d'émotions fortes et de surprises. On l'avait arraché soudainement à la civilisation et jeté au cœur du monde originel. Ce n'était plus la vie oisive et ensoleillée, où l'on n'avait rien d'autre à faire qu'à paresser et à s'ennuyer. Ici, ni paix ni repos, pas un moment de sécurité. Tout était confusion et action, et à chaque instant le corps et la vie étaient en péril. La vigilance permanente était une nécessité impérieuse, car ces chiens et ces hommes n'étaient pas des chiens et des hommes de la ville. Ils étaient tous des sauvages, et ne connaissaient d'autres lois que celles du gourdin et des crocs. Ils n'avaient jamais vu de chiens se battre comme ces créatures qui ressemblaient à des loups, et sa première expérience lui donna une leçon impossible à oublier. Il est vrai que ce fut une expérience indirecte, sinon il n'aurait pas survécu pour en tirer profit. C'est Curly qui en fut la victime. Il campait près du magasin de bois lorsque, fidèle à sa manière amicale, elle fit des avances à un husky qui avait la taille d'un loup adulte, mais n'était pas moitié aussi grand qu'elle. Il n'y eut aucun avertissement, juste un bond en avant pareil à un éclair, un claquement de dents métalliques, un bond en arrière tout aussi rapide, et la tête de Curly se trouva fendue de l'œil à la mâchoire. C'était la façon de combattre propre au loup. Frapper et se retirer d'un bond. Mais cela n'en resta pas là. 30 ou 40 huskies accoururent sur place et formèrent un cercle attentif et silencieux autour des combattants. Buck ne comprenait pas cette détermination muette, ni leur empressement à se lécher les babines. Curly se rua sur son adversaire, qui frappa à nouveau et fit un bond de côté. Il amortit l'assaut suivant avec la poitrine, d'une manière spéciale qui la fit culbuter. Elle ne se remit jamais sur ses pattes. C'était ce que les huskies qui regardaient la scène attendaient. Ils refermèrent leur cercle sur elle, avec des grondements et des jappements féroces, et elle se trouva ensevelie, hurlant d'angoisse sous la masse grouillante et hérissée de leur corps. Ce fut si soudain, si inattendu, que Buck en resta interdit. Il aperçut Spitz qui tirait sa langue écarlate avec cette manière qu'il avait de rire. Et il vit François bondir en faisant tournoyer une hache au milieu de ses chiens en pagaille. Trois hommes armés de gourdins l'aidèrent à les disperser. Cela ne prit pas longtemps. 2 minutes après la chute de Curly, ses derniers assaillants furent chassés à coups de gourdin. Mais elle restait étendue, flasque et sans vie, dans la neige sanglante et piétinée, littéralement mise en pièces. Et le métis basané, debout au-dessus de son cadavre, lançait d'horribles jurons. Cette scène revint souvent troubler le sommeil de Buck. Donc c'était ainsi. Pas de fair play. Une fois qu'on se trouvait à terre, c'en était fini. Eh bien, il veillerait à ne jamais tomber. Spitz tira à nouveau sa langue pour ricaner, et à compter de cet instant, Buck conçut pour lui une haine acharnée et mortelle. Avant d'avoir pu se remettre du choc causé par la fin tragique de Curly, il en subit un autre. François lui attacha sur le dos un ensemble de courroies et de boucles. C'était un harnais, comme il avait vu les palefreniers en mettre aux chevaux chez le juge. Et on l'envoya au travail comme il avait vu les chevaux travailler. Il devait tirer François sur un traîneau jusqu'à la forêt qui bordait la vallée et revenir avec un chargement de bois pour le feu. Sa dignité était amèrement blessée qu'on l'employait ainsi comme animal de trait, mais il était trop sage pour se rebeller. Il s'attela à la tâche plein de bonne volonté et fit de son mieux, quoique tout lui parût nouveau et étrange. François était sévère et exigeait une obéissance immédiate, qu'il obtenait grâce à son fouet. Quant à Dave, en timonier expérimenté, il mordait l'arrière-train de Buck chaque fois qu'il se trompait. Spitz était le chien de tête, lui aussi plein d'expérience, et comme il ne pouvait s'en prendre à Buck, il grognait de temps en temps de sévères reproches ou pesait habilement sur les traits pour le tirer dans la direction qu'il fallait. Buck apprenait facilement. Et grâce aux leçons conjuguées de ses deux camarades et de François, il fit des progrès remarquables. Avant leur retour au camp, il en savait assez pour s'arrêter quand on lui criait « Oh !» pour avancer quand on lui lançait « Hu !» pour virer large dans les courbes et s'écarter du timonier quand le chariot en pleine charge descendait la pente sur leurs talons. « 3 très bons chiens !» dit François à Perrault. « Zbuck, il tire comme un diable. Je lui apprends en rien de temps. » L'après-midi, Perrault, qui était pressé de se trouver sur la piste avec ses dépêches, revint avec 2 chiens supplémentaires. Billy et Joe, il les appelait. 2 frères, tous 2 de vrais huskies. Quoique fils de la même mère, ils étaient aussi différents que le jour et la nuit. Le seul défaut de Billy, c'était qu'il avait trop bon caractère. Joe, exactement l'inverse. Revêche, introverti, grondant sans arrêt, avec un regard malveillant. Buck les accueillit comme des camarades. Dave les ignora, et Spitz se mit à donner une bonne correction à l'un, puis à l'autre. Billy remua la queue en signe d'apaisement, commença à courir lorsqu'il vit que cela ne servait à rien, et cria, mais toujours de manière apaisante, quand les dents acérées de Spitz lui ouvrirent le flanc. Quant à Joe, Spitz avait beau lui tourner autour de toutes les manières possibles, il pivotait sur ses talons pour l'affronter, la crinière hérissée, les oreilles pointant vers l'arrière. Ses babines tordues laissaient échapper des grondements, ses mâchoires s'entrechoquaient aussi vite qu'il pouvait les faire claquer, et ses yeux brillaient de façon diabolique. Il paraissait l'incarnation de la peur agressive. Son allure était si terrifiante que Spitz fut contraint de renoncer à le punir. Mais pour masquer son propre embarras, il se tourna vers l'inoffensif Billy, qui gémissait plaintivement et le poursuivit jusqu'aux limites du camp. Le soir, Perrault se procura un autre chien, un vieux husky, maigre et décharné, au visage balafré par les combats. Il avait un œil unique dont l'éclat témoignait d'une vaillance qui imposait le respect. On l'appelait Sol Lex, ce qui veut dire le coléreux. Comme Dave, il ne demandait rien, ne donnait rien, n'attendait rien. Et quand il marchait d'un pas lent et ferme au milieu d'eux, même Spitz le laissait seul. Il avait une particularité que Buck eut la malchance de découvrir. Il n'aimait pas se faire aborder sur son côté aveugle. Sans le vouloir, Buck se rendit coupable de cette offense et il ne prit conscience de son indiscrétion que lorsque Sol Lex fondit sur lui à toute allure et lui entailla l'épaule de haut en bas jusqu'à l'os sur 3 pouces. Depuis, Buck évita toujours ce côté aveugle et il n'eut plus d'ennui avec lui jusqu'au terme de leur camaraderie. Apparemment, son unique ambition, comme celle de Dave, était qu'on le laissât tranquille. Cependant, ainsi que Buck devait l'apprendre plus tard, chacun d'eux en nourrissait une autre, bien plus essentielle. Cette nuit-là, Buck dut faire face au grand problème du sommeil. La tente, éclairée par une bougie, brillait d'un éclat chaleureux au milieu de la plaine blanche. Mais quand tout naturellement il y pénétra, Perrault et François le bombardèrent tous deux de malédictions et d'ustensiles de cuisine jusqu'à ce qu'il se remît de son accablement et prit honteusement la fuite dans le froid du dehors. Il soufflait un vent glacé qui le piquait durement et cinglait son épaule blessée de manière particulièrement douloureuse. Il se coucha sur la neige et essaya de dormir, mais le gel le força bientôt à se relever, tout frissonnant. Malheureux et inconsolable, il errait sans but parmi les nombreuses tentes, pour découvrir seulement que tous les endroits étaient aussi froids les uns que les autres. Ça et là, des chiens sauvages se ruaient sur lui, mais il hérissait le poil de son cou en grondant férocement, car il apprenait vite, et il le laissait poursuivre son chemin sans s'attaquer à lui. Finalement, une idée lui vint. Il allait retourner voir comment ses propres compagnons d'attelage se débrouillaient. À sa grande stupéfaction, ils avaient disparu. De nouveau, il erra à leur recherche dans le grand camp, puis revint encore. Était-il sous la tente? Non, c'était impossible, sinon on ne l'aurait pas chassé. Alors, où pouvait-il se trouver? La queue basse, le corps frissonnant, vraiment au comble du désespoir, il tournait sans but autour de la tente. Soudain, la neige céda sous ses pattes de devant et il tomba. Quelque chose remua en dessous. Il fit un bond en arrière, son poil se hérissa et, saisi par la crainte de l'invisible et de l'inconnu, il se mit à gronder. Mais un petit jappement amical le rassura et il revint poursuivre son investigation. Une bouffée d'air chaud lui monta au naseau et là il aperçut Billy, enroulé douillettement en boule sous la neige. Celui-ci gémit pour l'apaiser, se tortilla et se mit à plat ventre afin de montrer sa bonne volonté et ses intentions pacifiques, et se risqua même, pour acheter la paix, à lécher le visage de Buck de sa langue chaude et humide. Autre leçon. Donc c'était comme cela qu'il faisait, hein? Avec assurance, Buck choisit un endroit et, au prix de beaucoup de difficultés et d'efforts inutiles, réussit à se creuser un trou. En un clin d'œil, la chaleur de son corps emplit l'espace confiné et il s'assoupit. La journée avait été longue et pénible et il dormit d'un sommeil profond et confortable, tout en grognant, en aboyant et en luttant contre de mauvais rêves. Il n'ouvrit pas les yeux avant d'être tiré de son sommeil par les bruits du camp qui s'éveillait. D'abord, il ne reconnut pas où il était. Il avait neigé durant la nuit et il était complètement enseveli. Les murs de neige le coinçaient de chaque côté et une intense vague de peur le submergea. La peur du piège qu'éprouve toute créature sauvage. C'était le signe qu'il retrouvait, au-delà de sa propre vie, les vies de ses ancêtres, car il était un chien civilisé, trop civilisé. Sa propre expérience ne lui avait permis de connaître aucun piège, et il ne pouvait donc en avoir peur spontanément. Les muscles de son corps entier se contractèrent de manière spasmodique et instinctive. Le poil de son cou et de ses épaules se hérissa, et avec un grondement féroce, il bondit droit en l'air vers le jour aveuglant, tandis que la neige volait autour de lui dans un nuage lumineux. Avant de retomber sur ses pattes, il vit le camp tout blanc qui s'étendait devant lui, reconnut l'endroit où il était et se rappela tout ce qui s'était passé depuis le moment où il était sorti faire un tour avec Manuel jusqu'au trou qu'il s'était creusé la nuit précédente. Un cri de François salua sa réapparition. « Qu'est-ce que je disais ?» s'écria le conducteur de traîneau à Perrault. « Ce mec-là apprend vraiment vite comme tout !» Perrault approuva gravement d'un signe de tête. En tant que courrier du gouvernement canadien, porteur d'importantes dépêches, il tenait beaucoup à obtenir les meilleurs chiens. Et l'acquisition de Buck le réjouissait particulièrement. En une heure, 3 huskies supplémentaires s'ajoutèrent à l'équipe, portant le total à 9. Et avant qu'un autre quart d'heure se fût écoulé, ils étaient attelés et grimpaient la piste conduisant au canyon de Dia. Buck était content de ce départ. Et malgré la dureté du travail, il ne le trouva pas particulièrement déplaisant. Il était surpris par l'enthousiasme qui animait toute l'équipe et qui se communiquait à lui. Mais il y avait encore plus étonnant, le changement qui se manifestait chez Dave et Sol Lex. C'étaient de nouveaux chiens, complètement transformés par l'attelage. Toute leur passivité et leur indifférence s'étaient évanouies. Ils se montraient vigilants et actifs, soucieux de bien faire avancer le travail, et vivement irrités par tout ce qui, ralentissement ou désordre, pouvait le retarder. Le dur labeur des traits semblait l'expression suprême de leur existence, le seul but de leur vie et la seule chose qui les réjouit. Dave était timonier, le plus proche du traîneau. Pour tirer juste devant lui, il y avait Buck, puis venait Sol Lex. Le reste de l'équipe s'échelonnait en file indienne jusqu'à l'animal de tête, position occupée par Spitz. On avait à dessein placé Buck entre Dave et Sol Lex pour lui permettre de s'instruire. S'il était bon élève, il se montrait également bon maître. Il ne lui permettait jamais de persister longtemps dans l'erreur et faisait respecter leurs leçons grâce à leurs dents acérées. Dave était juste et très sage. Jamais il ne mordait Buck sans raison, mais il ne manquait jamais de le mordre quand le besoin s'en faisait sentir. Comme le fouet de François le secondait, Buck trouva meilleur compte à se corriger plutôt qu'à riposter. Une fois, pendant une courte halte, il s'embrouilla dans les traits et retarda le départ. Dave et Sol Lex se jetèrent ensemble sur lui et lui administrèrent une bonne correction. La confusion qui en résulta fut encore pire, mais désormais Buck prit grand soin de ne plus emmêler les traits. Et avant la fin du jour, il avait si bien maîtrisé sa tâche que ses camarades cessèrent de le harceler. Le fouet de François claqua moins fréquemment, et Perrault fit même à Buck l'honneur de lui soulever les pattes pour les examiner avec soin. Ce fut une rude journée de course pour monter au canyon. Ils dépassèrent Sheep Camp, les Scales et la ligne des bois, traversèrent des glaciers, des congères de centaines de pieds d'épaisseur, et franchirent le grand col de Chilkoot, ligne de partage entre le versant maritime et celui de l'intérieur, qui défend l'accès du nord triste et solitaire. Puis ils descendirent à bonne allure le chapelet des lacs qui emplissent les cratères de volcans éteints. Et tard, ce soir-là, ils arrivèrent à l'immense camp situé à l'extrémité du lac Bennett, où des milliers de chercheurs d'or construisaient des bateaux pour se préparer à la fonte des glaces au printemps. Buck creusa son trou dans la neige et, épuisé, dormit du sommeil des justes. Mais on l'en délogea trop tôt, dans les ténèbres glacées, pour l'atteler au traîneau avec ses compagnons. Ce jour-là, ils firent 40 000, car la piste était bien tassée. Mais le lendemain et tous les jours suivants, ils durent se frayer leur propre chemin, trimer plus dur et perdre plus de temps. En règle générale, Perrault passait devant l'équipe pour damer la neige avec des raquettes et leur faciliter la tâche. François, qui guidait le traîneau à la barre, échangeait parfois sa place contre la sienne, mais pas souvent. Perrault était pressé. Il se vantait de bien connaître la glace, connaissance indispensable, car celle d'automne était très fine. Et là où l'eau courait rapidement, il n'y avait pas de glace du tout. Jour après jour, interminablement, Buck peina dans les traits. Toujours il levait le camp dans les ténèbres, et dès la première lueur grise de l'aube, il parcourait encore la piste après avoir laissé derrière eux de nouveaux milles. Et toujours ils établissaient le camp une fois la nuit tombée, mangeaient leurs morceaux de poisson et grattaient la neige pour y dormir. Buck était vorace. La livre et demie de saumon séché au soleil, qui constituait sa ration quotidienne, semblait s'engloutir dans un gouffre. Il n'en avait jamais assez et souffrait de perpétuels tiraillements d'estomac. Pourtant, les autres chiens, parce qu'ils pesaient moins lourd et étaient nés pour ce genre de vie, recevaient seulement une livre de poisson et réussissaient à se maintenir en bonne forme. Il perdait rapidement les habitudes de raffinement qui avaient caractérisé son ancienne existence. Mangeur délicat, il découvrit que ses compagnons qui finissaient avant lui lui volaient sa ration avant qu'il l'eût terminée. Pas moyen de la défendre. Tandis qu'il se bagarrait pour en disperser deux ou trois, elle disparaissait dans le gosier des autres. Pour y remédier, il mangea aussi vite qu'eux, et la faim le poussait si fort qu'il alla jusqu'à prendre ce qui ne lui appartenait pas. Il observait et apprenait. Quand il vit Pike, l'un des nouveaux chiens, voleur malin et habile à simuler, dérober en douce une tranche de bacon en profitant de ce que Perrault avait le dos tourné, il répéta l'exploit le lendemain et s'enfuit avec le morceau entier. Il s'éleva un grand tumulte, mais on ne le suspecta pas. Dub, un gaffeur maladroit qui se faisait tout le temps attraper, subit à sa place le châtiment du méfait. Ce premier vol montra l'aptitude de Buck à survivre dans le milieu hostile des terres du Nord. Il prouva une faculté d'adaptation et une capacité à se plier à des situations nouvelles, sans lesquelles il aurait connu une mort prompte et terrible. Il attestait d'autre part l'affaiblissement ou la ruine de sa moralité, handicap superflu dans la lutte impitoyable pour l'existence. Tout cela, respect de la propriété privée et des sentiments personnels, était assez bon pour les terres du Sud, où régnait la loi de l'amour et de l'amitié, mais dans le Nord, sous la loi du gourdin et des crocs, tous ceux qui tenaient compte de telles bêtises étaient des imbéciles, et dans la mesure où ils les respectaient, couraient à un désastre certain. Ce n'était pas que Buck tint ce genre de raisonnement. Il était doué, voilà tout, et sans en avoir conscience, il s'adaptait à son nouveau mode d'existence. Toute sa vie, quelles que fussent ses chances de vaincre, il ne s'était jamais dérobé à un combat. Mais à force de coups, le gourdin de l'homme au gilet rouge l'avait fait pénétrer dans un monde régi par des lois plus fondamentales et plus primitives. Quand il était civilisé, il aurait pu mourir pour des considérations morales, mettons pour défendre la cravache du juge Miller. Mais la facilité avec laquelle il reniait de telles considérations prouvait maintenant qu'il abandonnait totalement la civilisation, ce qui lui sauvait la peau. Il ne volait pas pour le plaisir, mais parce que son estomac criait famine. Il ne dérobait pas ouvertement, mais en secret et par ruse, selon le principe du gourdin et des crocs. Bref, il agissait ainsi parce qu'il était plus facile de le faire que de ne pas le faire. Il progressait ou régressait à grands pas. Il acquit des muscles d'acier, une résistance accrue à toutes les agressions du quotidien. Il parvint à une organisation quasi parfaite, aussi bien physiquement que mentalement. Il pouvait manger n'importe quoi, jusqu'aux aliments les plus répugnants ou les plus indigestes. Une fois qu'il les avait avalés, les sucs de son estomac en extrayaient le moindre élément nutritif, et son sang, qui conduisait cet élément jusqu'aux extrémités de son corps, l'utilisait pour bâtir le plus résistant et le plus vigoureux des tissus. Sa vue, son odorat s'aiguisèrent de façon remarquable. Son ouïe devint si fine qu'il percevait le moindre bruit dans son sommeil et savait s'il annonçait paix ou danger. Il apprit à arracher la glace avec ses dents lorsqu'elle s'accumulait entre ses griffes. Et quand il avait soif et qu'il y avait une épaisse couche de glace sur le trou d'eau, il se dressait et raidissait ses pattes de devant pour la frapper et la casser. Sa qualité la plus remarquable était sa capacité à sentir le vent et à prévoir sa direction dès la veille. Même s'il n'y avait pas un souffle d'air quand il creusait son trou près d'un arbre ou de la rive, la bise qui venait plus tard le trouvait infailliblement sous le vent, dans un abri douillet. Il ne se contentait pas d'apprendre par l'expérience. Des instincts longtemps assoupis revivaient dans son être, tandis que les générations domestiquées s'en effaçaient. D'une manière confuse, il retrouvait le souvenir de la jeunesse de la race, au temps où des chiens sauvages rôdaient en meute à travers les forêts des premiers âges et tuaient la proie qu'ils capturaient. Ce ne fut pas difficile pour lui d'apprendre à se battre à coups d'entailles, de balafres et de morsures rapides comme celles du loup. C'était de cette façon que s'étaient battus ses ancêtres, oubliés. Il ranimait en lui la vie des temps anciens, et les vieilles ruses qu'ils avaient imprimées dans l'hérédité de la race devenaient les siennes. Elles lui revenaient sans effort, sans qu'il eût à les découvrir, comme si elles lui avaient toujours appartenu. Lorsque, dans le calme des nuits froides, il pointait le museau vers une étoile et hurlait longtemps à la façon d'un loup, c'était ses ancêtres, devenus cadavres et poussières, qui pointaient le museau vers l'étoile et hurlaient à travers les siècles jusqu'à lui. Les cadences qu'il adoptait étaient les leurs, et elles exprimaient ce qu'était leur détresse et ce que signifiait pour eux le silence, le froid et l'obscurité. Ainsi, comme pour rappeler que les êtres vivants ne sont que des pantins, l'antique chanson montait en lui et il renouait avec ses origines. Et tout cela parce que des hommes avaient trouvé dans le nord un métal jaune, et parce que Manuel était un aide-jardinier dont les gages ne parvenaient pas à satisfaire les besoins de sa femme et des diverses petites reproductions de sa personne.